Vous êtes de retour sur les ondes de Choc FM avec Anne-Marie à la boîte à lunch. Et comme je vous avais dit un peu plus tôt cette semaine, j'ai été voir l'exposition « The Idea of North, The Paintings of Lauren Harris ». J'ai eu la chance d'avoir un tour guidé avec un guide francophone. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez aller voir cette exposition-là, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, j'ai été voir l'exposition hier, donc, et j'ai pu découvrir un peu Lauren Harris. Je viens d'un background, en bon français, d'histoire de l'art, donc c'est un nom qui m'était familier, donc c'est un des peintres fondateurs du groupe des sept, groupe de peintres canadiens qui était très important au niveau du paysage dans le but de trouver une identité canadienne au début du 20e siècle. Et Lauren Harris est un de ces peintres-là du groupe des sept, le fondateur, et un très important puisqu'il était quand même différent au niveau stylistique que le reste du groupe des sept. Et c'est donc sur cet artiste-là, cet artiste peintre canadien, que l'exposition du AGO propose. Donc. Et j'ai été donc voir « The Idea of North, The Paintings of Lauren Harris » hier. Et j'ai pu donc discuter et avoir des petits détails qui on n'a pas la chance d'avoir si on y va par soi-même. Donc en fait, Lauren Harris, c'est, comme je vous ai dit, le fondateur du groupe des sept. Ils étaient à la recherche d'une identité canadienne par le Nord. Donc aller trouver cette identité canadienne-là dans le Nord canadien par les paysages. Et la recherche de cette identité canadienne-là sous-entendait aussi la recherche de comment partager cette identité-là. Donc, l'exposition a été à Los Angeles et à Boston avant d'être à Toronto. Mais à Toronto, c'est quand même un petit peu différent de ce que c'était avant dans les deux autres villes américaines, puisque ici, on sous-entend un peu qu'on connaît l'artiste, on connaît un peu Lauren Harris. Ici, on connaît pas l'artiste, on connaît un peu l'idée du Nord canadien. C'est un peu déjà dans notre imaginaire. Donc, ils ont poussé un petit peu plus loin le travail de Lauren Harris dans cette exposition-là à Toronto en mettant une introduction et une conclusion, ce qui n'était pas là à Los Angeles et à Boston. Ils avaient plus concentré leurs efforts, en fait, à faire une introduction générale sur le travail de Lauren Harris. Donc, au cours de ce topo-là, au cours de mes explications, quelques petites explications qui sont peut-être mieux que les miennes, que mon guide hier m'a expliqué. Donc, juste pour vous mettre un peu en contexte par moment. Donc, l'exposition est divisée en trois grandes catégories, si je peux dire. Et le début, en fait, c'est des peintures qu'on connaît moins de Lauren Harris, qui, en fait, proviennent de son travail de peintre avant le groupe des sept. Donc, quelque chose de vraiment plus terre-à-terre, plus urbain, vraiment axé sur Toronto, d'où il provient.
On ne connaît pas très bien ces toiles qu'il a faites au début de sa carrière. Donc, c'est un peu intéressant ici parce que ça parle vraiment de la ville de Toronto au début du 20e siècle. Il était assez privilégié pendant toute sa vie. Il était dans une famille très riche. Donc, il était là, il a étudié en Allemagne pour quelques années. Il est revenu au Canada et il a commencé d'utiliser les techniques qu'il a apprises en Europe dans le Ward. Donc, ça s'appelle In the Ward. Et c'est vraiment, on est situé à ce temps-là, ça s'appelait St. John's Ward. Et on peut voir que c'était assez différent que maintenant. Donc, on voit un peu un contraste ici. Parce qu'on voit les tableaux de Lauren Harris et de temps en temps, les maisons sont assez propres et bien. Et les autres, on peut voir que c'est pour les gens pauvres.
Donc, vous pouvez comprendre, c'était la première partie de l'exposition. Le style de Lauren Harris n'était pas comme celui qu'on connaît majoritairement aujourd'hui. Et donc, après cette passe plus impressionniste, c'est là qu'on tombe dans le Lauren Harris qui est plus connu aujourd'hui.
Les plus populaires pour lui, c'était vraiment les icebergs et les montagnes. Okay. Donc, dans les années 20, ils ont eu leur premier spectacle ensemble, leur première exposition ensemble en 1920. Et après ça, ça a commencé pour lui. Et Et c'était juste après qu'il a commencé de voyager au nord.
OK.
Ouais. On peut voir que c'était vraiment... On a eu beaucoup de monde dans la ville. Mais si on voit seulement les étoiles de Lauren Harris, on a l'impression que c'est vide. Donc, et c'est intéressant aussi parce que quand il a commencé de faire ses voyages au nord, il a rencontré plusieurs Inuits et tous, mais
oui,
tous les tableaux sont sans personne.
Est-ce que vous savez si c'était un choix artistique ou que de pas mettre pratiquement de personne?
Oui, quand il a voyagé au nord, c'était vraiment un choix parce qu'il était en train de chercher quelque chose de plus spirituel et vraiment travailler avec les formes géométriques dans les montagnes, dans la nature.
Donc, Lauren Spring, la guide du AGO, m'a aussi dit, en fait, quelques petites différences entre les expositions qu'il y a eu à Los Angeles et à Boston sur Lauren Harris et qu'est-ce qui est différent avec l'exposition qui se déroule présentement au AGO à Toronto.
Aussi à Toronto, c'est que notre conservateur de l'art canadien, il a aussi commissionné quelques artistes, 4 artistes différents, contemporains, qui habitent dans la ville et qui ont les héritages très divers. Et donc, on voit ici, ça c'est Annick Jordan. Elle parle un peu de l'histoire des gens noirs à Toronto. Et donc, elle a fait une série, elle a une ici et 4 autres dans la dernière galerie. Oui, on a un petit film, c'est une animation créée par Tin Can Forest. Et l'animation, l'histoire, c'est un rêve de Lauren Harris.
Est-ce que le choix de ces artistes-là actuels ont été faits parce qu'ils faisaient quelque chose d'assez spirituel, on voit l'église, on voit le monde du rêve, où c'était on choisit ces artistes-là, puis après on leur dit, ah, faites quelque chose de mythique, mystique.
Je pense que c'était un peu les deux. Je pense Andrew Hunter, notre conservateur, il connaît très bien déjà les œuvres de ces artistes et il a pensé, OK, peut-être il y a quelque chose à explorer ici.
Donc ça, le conservateur a choisi ces artistes-là parce qu'il connaissait déjà leur travail.
Oui.
OK.
Oui.
Ce que j'ai vraiment aimé dans l'exposition et ce que Lauren Spring, la guide, a souligné aussi, c'est que tout n'était pas noir ou blanc. Donc, il y a vraiment une section, une espèce de zone tampon entre la zone avant le groupe des sept et pendant le groupe des sept où les styles se mixent dans le travail de Lauren Harris. Donc, c'est quand même intéressant que la galerie a pris la peine de démontrer cet aspect-là, cette évolution-là du style de Lauren Harris.
Ces 5 tableaux ici sont très spéciales parce que c'est vrai qu'il a déjà commencé à voyager. Il a vraiment découvert la lumière dans le nord. Il est tourné à Toronto et il a utilisé les mêmes sujets, les maisons, mais avec une lumière très différente.
Donc à ce niveau-là de l'exposition, Lauren Harris fait encore ses maisons impressionnistes, on peut les appeler comme ça, donc de la première zone avant le groupe des sept. Mais puisqu'il a déjà commencé à voyager dans le nord, on voit déjà dans les cinq tableaux que Lauren Spring m'a montré que la lumière est vraiment plus spirituelle. Il y a une certaine lumière qui descend du ciel là, qui fait vraiment plus spirituelle déjà. Cette idée d'actualiser un peintre canadien qui fait partie de l'histoire culturelle du Canada, de l'actualiser avec des artistes aujourd'hui qui posent un regard critique sur ce travail-là. Je trouvais ça super intéressant, donc je suis revenue à cette question-là.
Est-ce que vous faites souvent ça ou dans les expositions?
De plus en plus, je pense. Surtout quand on a quelqu'un très célèbre comme Lauren Harris, je pense que c'est vraiment important d'avoir une discussion. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la ville de Toronto? Parce que son travail est un peu problématique ici parce qu'il a vraiment voulu de chercher une identité canadienne, mais il a complètement enlevé les gens.
Ouais.
Donc c'est un peu problématique de ce niveau-là. Donc je pense que surtout pour ça, c'était important pour Andrew Hunter d'inclure les autres voix.
Oui, de voir c'est ce qui fait partie de cette identité-là aujourd'hui qui a été exclue, qui ont été exclus à l'époque.
Oui, et c'était aussi un problème de cette institution. Ils ont eu plusieurs expositions à la Galerie de l'Art de l'Ontario. Et oui, c'était surtout les hommes blancs qui ont eu le droit de s'exprimer comme ça et d'avoir du public et les critiques. Donc c'est une façon d'essayer de régler notre histoire comme une institution aussi.
Il faut aussi savoir dans cette exposition-là que Steve Martin, le comédien, a commissarié 2 salles Et je voulais savoir, en fait, comment cette collaboration avec Steve Martin, ça l'avait commencé. J'étais quand même curieuse sur ce point-là.
Comment ça a fonctionné, en fait, cette collaboration avec lui?
Oui, c'était lui qui a vraiment lancé cette collaboration.
Okay.
Parce qu'il était, pendant quelques années, il était très fan de Lorne Harris. Il a pensé au début que c'était Rockwell Kent. Donc Steve Martin a vu l'image d'un tableau de Lorne Harris et il a dit « Oh, mais c'est le meilleur Rockwell Kent que j'ai jamais vu! » Et puis il dit « Oh, mais c'est pas du tout Rockwell Kent! » Donc oui, c'était son idée de l'introduire à un public aux États-Unis. Donc c'était lancé un peu comme ça. Et la collaboration, c'est lui, il connaît très bien l'art, donc c'est pas vraiment juste une gimmick. Donc ils ont vraiment, oui, collaboré ensemble et...
Cette idée de grand espace aussi qui se retrouve dans les toiles, on le retrouve aussi dans la galerie, dans cet espace-là qui est des petites toiles dans un grand environnement aussi. C'est intéressant de... Je sais pas s'il a pensé à l'espace aussi, probablement un peu. Là.
J'imagine, oui, parce que celle-là et puis la prochaine, il y a vraiment un contrat parce qu'ici, ils sont... C'est petit et dans le prochain, c'est tableau le plus grand.
Okay.
Donc, c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs gens qui pensent que c'est quelque chose de documentaire ou très réel et ce n'était pas du tout le cas.
Je pensais s'ils faisaient des esquisses sur les lieux, sur le terrain, un peu comme les impressionnistes faisaient, peignaient plus
de dehors. Temps en temps, on a aussi dans l'exposition plusieurs dessins en ville, là, vraiment fait avec du
peinture. Okay.
Malgré le fait que moi, personnellement, les paysages, ce n'est pas quelque chose qui va me happé passionnément. Je suis plus quelqu'un de portrait, si on parle de peinture, que de paysage. Mais j'ai vraiment remarqué à quel point, quand même, que la lumière avait un rôle excessivement important dans le travail de Lorne Harris. C'est vraiment impressionnant comment le jeu de la lumière donne un angle vraiment spirituel, presque mystique et religieux à toutes ses peintures.
Il a vu aussi, même avant les années 20, une exposition et c'était la première fois qu'il a vu les paysages en neige et il a dit « Oh, mais c'est vraiment, il y avait vraiment quelque chose » et la spiritualité scandinavienne aussi, mm-hmm. Il dit que le secret pour tout le monde, c'est vraiment dans le nord. Au lieu de vraiment travailler avec la politique ou les autres choses, il était plus en cherchant et les grandes questions de la vie.
Donc, après la première section de l'exposition, donc avant le groupe des sept, cette évolution zone tampon de avant et pendant groupe des sept qui se mélange et la section commissariée par Steve Martin qui est vraiment le Lorne Harris qu'on connaît avec ses tableaux très bleus, très gris, très en taches de couleur. Il y a une autre évolution, donc la dernière salle de l'exposition que Lauren Spring m'a présentée. Donc, The Idea of North, The Paintings of Lorne Harris, présenté au AGO du 1er juillet au 18 septembre 2016. Donc, manquez pas ça, allez-y faire un tour. Je vous rappelle, trois sections sur la vie de sur la vie de peintre de Lauren Harris. Donc, première section, In the Yard, avant le groupe des Sept. Section 2, The Idealized North, durant son temps avec le groupe des Sept. Et après, la section 3, donc, Seat of Erasure and Renewal. Donc, ce qu'il a fait à partir des années 30, quand il a déménagé aux États-Unis. Donc, je vous dirais que ma partie préférée, moi, de l'exposition, quelqu'un qui est pas très... attaché ou très happé par les paysages habituellement. À la toute fin, il y a un vidéo teaser de ce que je vous ai déjà parlé dans une capsule précédemment, de cette collaboration qui va se faire entre le AGO et le National Ballet. Donc, Monsieur Binet, chorégraphe associé du National, qui va faire une œuvre, donc, à partir du 31 août au AGO, donc, basé et inspiré sur cette exposition de Lauren Harris. Et juste le teaser, moi je serai pas là pour aller voir l'œuvre malheureusement, mais juste le teaser, je crois que je l'ai regardé 3 fois d'affilée, comment ça m'a hypnotisé, c'était magnifique, la musique était envoûtante et c'est là que j'ai pu voir vraiment les couleurs de Lauren Harris, les couleurs froides et le dynamisme des mouvements qu'on peut retrouver dans les toiles. C'était vraiment, vraiment intéressant, vraiment hypnotisant. J'étais vraiment émue par ce petit teaser de quelques minutes. Si vous voulez aller voir l'exposition, allez-y et n'oubliez pas d'aller faire un tour au AGO. Billet de $45 pour aller voir les danseurs du National le 31 août. Donc, au AGO pour voir cette œuvre chorégraphique inspirée de l'exposition de Lauren Harris. Manquez pas ça!